Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question quand même, c'est-à-dire, est-ce que, au fond, le savoir psychiatrique, dans ce que vous dites, ne se dissout pas dans une forme de médecine philosophique de l'esprit ?
C'est le but.
Ben voilà. Une question dans la salle.
Merci pour cette intervention. J'avais une question de jeune interne. Pour ce modèle biopsychosocial qui vous apparaît, en tout cas moi j'ai pas la sensation que ça soit tant une vue de l'esprit que ça ou un concept. On m'entend pas bien ? Non, c'est bon ? D'accord. En tout cas, vous évoquiez le fait qu'il n'y ait pas d'outils pour ce modèle biopsychosocial. Sur le plan clinique, en tant qu'interne, je pense qu'on a tous l'institution, en tout cas déjà comme premier outil de ce modèle biopsychosocial, au moins sur le plan clinique, l'étayage institutionnel dans son ensemble. Et puis sur le plan de la recherche, j'ai la sensation que les recherches individuelles qui apparaissent, les articles qui apparaissent sont réductionnistes par essence, mais qu'il y a des revues, des reviews qui font un peu la synthèse de tout ça et qui proposent des modèles biopsychosociaux aux praticiens dans leur pratique clinique quotidienne et qui font ce travail un peu de rassembler, mais de composer un modèle pratique.
Vous avez raison de souligner ces choses-là. Je vais vous répondre par un exemple que nous connaissons bien, puisqu'on a un de nos étudiants qui a fait sa recherche chez Ivagide au moment de la création du protocole Stock. Là, j'en parlais tout à l'heure à certains de vos camarades, c'est-à-dire les gens qui font l'implantation dans les noyaux sous-thalamiques de petites électrodes. Effectivement, chez un certain nombre de ces patients, qui sont des patients à TOC gigantesque, on appuie sur le bouton et le rituel s'arrête, comme ça. Hein. S'il y a des phénomènes de guérison radicale par interruption de certains circuits, alors on ne sait pas trop exactement comment ça marche, mais qui font que vraiment des gens incurables, on a tout essayé, les neuroleptiques, les TCC, la psychanalyse, vraiment, sont une petite portion non négligeable, incroyablement guérie. Alors ce qui est génial avec votre mention de la notion d'institution, c'est que Yves Agide, qui est quelqu'un qui a travaillé sur les Parkinson, et c'est une erreur sur les parkinsoniens qui aboutit à l'idée d'implanter des électrodes dans les noyaux sous-thalamiques à un certain endroit bien particulier, est un neurologue qui sait très bien que quand on guérit un symptôme, quelquefois c'est encore pire que tout en neurologie. C'est-à-dire qu'on risque que les patients se suicident si on leur enlève le symptôme. Et donc il avait prévu qu'il y ait un accompagnement institutionnel. C'est-à-dire qu'il avait prévu qu'une fois qu'au cas où ça guérirait, les gens privés de ces tocs qui envahissaient leur vie du matin au soir de manière absolument envahissante ne se retrouvent pas entièrement vides. On ne sait pas du tout comment organiser la prise en charge institutionnelle de ce genre de gens. L'enquête rétrospective qu'a fait l'ethnologue Baptiste Moutot, il va publier d'ailleurs sa recherche sur ça, est très intéressante. Cliniquement, médicalement, voilà des gens guéris. Donc il n'y a aucun problème, ils sont guéris, ils n'ont plus du tout les symptômes. Voilà. Le problème, c'est l'inquiétude de savoir combien de temps ils vont tenir le coup guéris. C'est-à-dire que tout le modèle de construction, vous voyez, biopsychosocial qui a été construit institutionnellement, oui, idéalement, sauf qu'on ne sait pas en réalité comment exactement emboîter les choses les unes dans les autres. Il y a un deuxième aspect des choses auquel il faut être extrêmement sensible, c'est que ça fait très longtemps que les neuroscientifiques nous disent qu'ils vont guérir les maladies mentales. Je crains pas du tout le triomphe des neurosciences, je crains au contraire qu'il y ait une révolte contre les neurosciences. C'est-à-dire qu'elles ont incontestablement augmenté de manière formidable le niveau de rationalité, la qualité de la recherche empirique, l'ampleur, la profondeur des hypothèses, je ne la conteste pas. Mais comme ils ne guérissent toujours rien, et que ça fait 30 ans qu'ils demandent de l'argent pour le faire, je crains fort que nous soyons menacés par quelque chose de totalement imprévisible qui sont des flambées d'irrationalisme. C'est-à-dire, ça suffit comme ça, n'est-ce pas ? On ne va plus vouloir marcher dans le sens d'une scientificité très réelle, hein, très réelle, mais qui ne produit pas les résultats sur lesquels elle s'est appuyée. J'enverrai un exemple, par exemple, dans ce sur quoi je travaille en ce moment, là, les entendeurs de voix. Hein, c'est ces gens qui décident que ça suffit comme ça, entendre des voix. On ne peut rien contre les voix qui sortent du modèle psychiatrique et qui décident de s'organiser entre eux pour organiser des modes de vie non psychiatriques, anti-modèle médical, sur le mode en général des alcooliques anonymes, hein, c'est un des principes d'organisation de ce type de groupe, et qui décident de sortir totalement, en revendiquant leur autonomie de malade, de ce dispositif-là, hein, de ce dispositif médical et institutionnel. Et donc, dire que le modèle... oui, bien sûr, il y a un modèle biopsychosocial, un contexte institutionnel, mais concrètement, ce qui est en train de se passer dans plein de pays du monde, autour du recovery, par exemple, ou autour de ce qui va se passer quand la psychiatrie sera devenue une médecine neuroscientifique, mais ça a produit probablement des résultats et des effets, des transformations complètement différentes, absolument différentes et imprévisibles à l'égard de ce que c'est. Imaginez-vous, par exemple, que vous n'allez bientôt, à mon avis, à la fin de votre carrière, je fais le pari qu'on ne parlera plus de psychose. Ça aura disparu, parce que les conditions même de manifestation de ces choses-là auront été entièrement modifiées. Comme c'est par exemple le cas, mais Brigitte va en parler, pour des tas de choses autour de l'autisme. Hein. Croire que ces trucs-là ne vont pas changer historiquement, c'est complètement... et que c'est la science qui va nous dire ce que c'est, c'est complètement erroné sur le plan de l'histoire.
Oui, et en même temps, c'est vrai que retirer la côté biologique de ce modèle-là, finalement, qui est peut-être un modèle utopiste, mais en tout cas qui a au moins ses qualités de modèle, finalement, on peut tomber aussi dans le versant, de tomber dans l'obscurantisme et de...
Oui, c'est probablement parce que les psychiatres ne se rendent pas compte de la chance inouïe qu'ils ont eue, voyez, de bénéficier d'une période de l'histoire où la stabilité des catégories sociales et psychologiques pouvait permettre de définir des normes du bien-être et du mal-être suffisamment solides pour accréditer l'idée qu'il y avait des dépressions, par exemple. En 1960, la dépression est une affection extrêmement rarement prescrite. On ne sait même pas s'il y a un marché pour vendre des antidépresseurs. Donc l'idée que ça puisse devenir un idiome de détresse au point qu'on en fasse une maladie qui devient un poids assignable dans les comptabilités publiques des pays développés, hein, c'est quelque chose qui s'est produit en l'espace de 30 ans. Hein, et tout le monde a l'impression que c'est éternel, avec cet effet de... Voyez. Donc la biologie a besoin de cette stabilisation de formes culturelles et sociales d'expression de la détresse humaine. Et la logique interne de ces choses-là reste extrêmement ouverte, et ouverte à des modifications, je crois, très profondes. C'est inouï ce qu'on va voir se passer.
Est-ce qu'au fond, vous dites que les neurosciences, notamment, reconfigurent l'idée de l'homme ?
Ah ben, c'est tout à fait ça. Un truc comme l'homme neuronal, pourquoi c'est un titre accrocheur ? C'est parce que ça vend le projet des neurosciences dans le contexte d'un nouvel humanisme. Il n'y a rien de tel de plus... L'humanisme, c'est ce qu'il y a de plus vendeur dans nos sociétés.
Ça me fait penser à une étude qui a été faite sous l'égide de l'OMS dans différents pays sur l'incidence de la dépression, la prévalence de la dépression. Et en Mauritanie, le mot n'existe pas. Donc il a fallu le créer.
Alors je vais traduire justement, je vous dis ça parce que c'est une chose absolument fascinante, le livre d'une japonaise, s'appelle Yuko Kitanaka, qui explique comment... on a essayé de vendre la dépression au Japon. C'est évidemment, en japonais, pour dire qu'on est triste, il y a 195 manières, suivant la couleur des pétales des cerisiers, la force du vent, l'âge de la personne à qui vous parlez, etc. Donc c'est difficile de faire passer des tests psychométriques. Elle explique très bien, d'ailleurs, qu'au départ, il fallait faire taire les patients et se régler uniquement sur le ralentissement psychomoteur. Et donc les psychiatres, les laboratoires pharmaceutiques ont fait venir des anthropologues pour essayer de comprendre comment on allait pouvoir vendre des tricycliques aux Japonais. Et c'est aussi la raison pour laquelle au Japon, c'est devenu normatif. On essaye tous les médicaments aux États-Unis et au Japon, parce que si ça marche sur les Japonais, ça marchera sur les Américains. La réciproque n'étant pas vraie, puisque c'est les cas les plus lourds. Et en même temps, au lieu de voir là-dedans un effet d'imposition de normes, où les pauvres Japonais, on les a forcés à manger des médicaments, figurez-vous que grâce à la catégorie de dépression, les psychiatres et les médecins du travail ont pu s'emparer de cette catégorie de dépression pour dire que les gens qui se suicident par excès de travail à l'entreprise, dans leur entreprise, ne sont pas des faibles sur le plan moral, mais bien des malades. C'est-à-dire qu'ils ont à l'intérieur de leur propre, c'est pas du tout des victimes de l'industrie pharmaceutique, ils ont utilisé localement, en fonction du rapport de force, ce type de lexique, ce type de crédibilité qui leur était donné pour faire en sorte que le burn-out des ouvriers et des cadres japonais ne soit plus considéré comme une faillite personnelle. Ça allait au point que la famille n'allait même pas à l'enterrement, hein. Et donc, dans les années 80, grâce à ça, on leur a vendu des antidépresseurs, mais ils s'en sont appropriés pour dire non, la condition des travailleurs au Japon et des cadres est absolument intolérable, les gens sont rendus malades, et ça fait démarrer la dimension psychiatrique de la médecine du travail. C'est, si on ne prend pas les choses dans leur globalité, on reste complètement obsédé par la question de savoir si c'est vrai ou faux, les essais cliniques, si ça marche ou si ça ne marche pas, etc. On s'en fiche. Comment est-ce que ça marche? À quoi ça sert? Comment ça s'intègre dans toutes sortes de lieux et de dispositifs, comme la vie sociale, comme le monde du travail, etc., à l'intérieur des idiomes de détresse, où le vécu corporel pénible, le vécu psychique pénible, a une fonction et reste de part en part quelque chose de social. Voyez, et donc ça, c'est tout un champ d'études, hein, qui est entièrement vierge. Hein. Personne, ou très très peu de gens, bon, à part Brigitte, et puis quelques gens sur l'autisme et d'autres pathologies des enfants le font. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est autre chose que de croire qu'il n'y a que les neurosciences qui vont faire avancer le schmilblick.
Encore le temps d'une question, me dit Grégoire. Non, attendez, le micro arrive.
Oui, bonjour. Je voulais savoir dans quelle mesure, pour vous, l'un excluait l'autre, ou en quoi finalement ce champ vierge d'études très intéressant que vous décrivez est complémentaire finalement d'un champ qui s'ancre effectivement dans l'étude de la biologie, de la neuroscience. Finalement, comment on intègre la neuroscience dans un champ plus vaste et plus global? Je ne vois pas pourquoi l'un devrait laisser la place à l'autre, ou si voilà, aussi comme on le disait tout à l'heure, le but était de dissoudre dans une approche plus philosophique le travail sur la compréhension des pathologies. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de revenir à quelques accents antipsychiatriques aussi dans la façon dont vous décrivez les maladies, uniquement en référence au concept, à la façon dont on les perçoit, etc.
Oui, alors je peux vous indiquer pourquoi je ne suis pas satisfait de ce que je dis. Je pense que vous l'avez perçu dans mon propos, c'est que je passe très rapidement d'une critique de nature conceptuelle à une critique de nature sociologique des choses. Tantôt je parle du concept, tantôt je parle de son usage dans les relations sociales, par exemple de dépression. Alors pour le moment, la façon dont je m'en tire, ça consiste à dire que c'est très intéressant, là où quelqu'un vous dit qu'il a un vrai concept scientifique, de montrer qu'en réalité, il n'a que une représentation qui nous apprend beaucoup plus sur l'époque à laquelle il parle et sur sa façon de se représenter les liens sociaux en son temps que sur une maladie mentale. Et inversement, que là où les gens ont l'impression de dire des choses assez floues et assez vagues, qu'au contraire, c'est peut-être là qu'ils mettent le doigt sur des connexions véritablement intéressantes qui nous expliquent ce que c'est que la vie psychique. Et donc, lorsque vous me dites pourquoi ce serait compatible ou incompatible, c'est pas du tout le problème, n'est pas de savoir si c'est compatible ou incompatible. Le problème, c'est de savoir comment vous procédez pour mettre en lumière des choses qui nous sortent de la routine habituelle, soit du réductionnisme, soit du constructivisme. Et la solution que je propose, c'est justement ça. D'inverser les choses. On vous dit que la dépression, c'est super bien mesuré par tel et tel paramètre, etc. Allons voir comment c'est fait, comment sont construites les échelles psychométriques, de quelle manière. Et on voit, on peut assez facilement, je le fais dans mon bouquin sur certains trucs, c'est pas trivial, mais on voit très bien comment ce sont des représentations sociales qui sont véhiculées là-dedans, et inversement. Et donc c'est pas du tout, vous voyez, de donner raison à l'un ou à l'autre, c'est de faire apparaître des choses qui n'ont jamais été conçues jusqu'ici. et qui puisse faire repartir l'idée qu'il y a une recherche en psychiatrie qui n'est pas une recherche en neurosciences ou une recherche en sciences sociales, qui est une recherche en psychiatrie, avec des objets psychiatriques. Pour ça, il faut secouer le prunier, en quelque sorte.
C'est-à-dire que vous plaidez pour un esprit critique en permanence.
C'est ce que j'appelle la médecine philosophique de l'esprit. Je veux dire, il ne faut jamais oublier que la médecine, ce n'est pas du tout une invention comme ça récente. Ça a toujours été considéré comme quelque chose d'étroitement lié à la réflexion critique sur les mots même de critique, etc., de point critique, de crise, sont des mots qui sont strictement parallèles en médecine et en philosophie. L'idée même que penser, c'est se guérir l'esprit, etc. Quant à ce que vous me faites remarquer sur l'antipsychiatrie, oui, c'est assez juste. Je ne pense pas que ce soit antipsychiatrique au sens où ce soit spécialement subversif. On peut en faire un usage subversif, mais je crois que ce qui est antipsychiatrique, c'est la réhabilitation du fait qu'on peut écouter ce que disent les gens et écouter ses propres réactions sans avoir besoin de pratiquer une objectivation contrôlante de ce qui est en train de se passer, en utilisant des instruments pour essayer de border la chose. Et c'est notamment extrêmement important quand on est amené à, par exemple, dans les situations d'expertise médico-légale, à savoir jusqu'à quel point quelqu'un peut être dangereux, quelqu'un peut recommencer un acte criminel, jusqu'à quel point sa folie a déterminé son acte, etc. C'est de disposer d'instruments conceptuels qui crédibilisent nos perceptions, nos intuitions, nos réactions, et qui nous permettent de les penser complètement, à fond. Et c'est plutôt en ce sens-là que je parle d'une enquête philosophique, parce que je ne connais pas d'autre moyen que une enquête philosophique pour prendre possession de ce que c'est que nos réactions naturelles devant les comportements d'autrui, ce que nous en pensons, etc. Bon, c'est évidemment lié aussi à la psychanalyse, mais je laisse systématiquement de côté ces questions quand je parle devant des psychiatres. Voilà.
Alors, une dernière question brève de M. Vianduri, peut-être. Ce que je vous propose, comme un certain nombre d'entre vous, comme notre dernière conférencière, ont des trains à prendre, c'est qu'on enchaîne directement avec la dernière intervention.
Je serai très bref, mais je suis tout à fait d'accord avec M. Castel. Je suis neurophysiologiste depuis 30 ans, 35 ans à peu près. Et donc j'ai vécu la neurophysiologie sous diverses formes, neurochimie, spectroscopie cérébrale, neurosciences cognitives, électrophysiologie et j'en passe. Et je suis tout à fait d'accord avec vous en ce sens que la neurophysiologie est passionnante au niveau de la neurophysiologie. Rien n'indique, et ça c'est mon expérience personnelle, quels sont les concepts et les moyens suffisants, conceptuellement, pour aborder la problématique des maladies mentales. On peut s'amuser à faire des espèces de liens théoriques, mais ils sont extrêmement artificiels parce que ce n'est pas vraiment le problème. C'est-à-dire que quand vous avez devant vous une culture cellulaire de neurones, le passage du niveau neuronal, que vous avez très bien signalé, au niveau de la maladie de l'esprit n'est absolument pas évident. Et en permanence, on fait une faute épistémologique majeure qui consiste en quelque sorte à dissoudre la régionalité des sciences, la régionalité des approches. La neurobiologie, c'est pour la neurobiologie, les cellules, c'est pour les cellules. Et le passage, même au réseau cellulaire, n'est pas si évident que ça. Dans la mesure où, par exemple, on fait l'impasse sur les cellules gliales, dans la mesure où on fait l'impasse de plein de choses, en réalité. Et donc, je crois qu'un effort, enfin, un problème pour les jeunes internes, notamment, c'est qu'on les met dans des situations d'apprentissage de la neurobiologie ou des sciences cognitives, parce que ça donne des papiers, que ça permet de faire des carrières, etc. Très bien. Mais en réalité, il ne faut pas être dupe. Là, il y a une évidence naturelle qu'il faut absolument, en quelque sorte, effondrer. Les neurosciences cognitives ne sont pas à la hauteur des problèmes posés par la psychiatrie. Pas plus qu'elles ne le sont d'ailleurs à la hauteur des problèmes posés par la phénoménologie ou la philosophie. Parce qu'elles ne sont pas suffisantes et qu'on n'a pas assez avancé, si tant est qu'on puisse un jour avancer suffisamment. Voilà, je m'arrête là.